Marc.
Oui.
Ça marche.
Alors, j'espère que le coteau du Léon ne vous emmènera pas dans les bras de Morphée. Alors, je vais essayer d'être énergique dans ma parole. Oui, tout ça, c'est enregistré. Donc, je vais essayer de regarder avec vous un certain nombre de discours théologiques qui ont essayé d'être manifestés, de se dire au cours des siècles. Mais je ne prendrai pas un chemin chronologique, car je sais trop que les courants théologiques traversent les siècles et que des choses que nous pourrions croire du Moyen Âge existent encore aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vais faire une introduction assez conséquente, de 10 minutes à un quart d'heure, et que ensuite j'essaierai de regarder quels sont donc les grands axes, les grandes tendances, les grands courants, souvent liés à des choix, quelquefois idéologiques. Et je trouve que ce que nous a dit ce matin Denis nous aide à comprendre comment certaines théologies se construisent sur des intérêts économicaux, sociaux, politicaux, psychaux, etc., etc. Et donc, c'est dans ce sens-là que la théologie doit toujours se laisser travailler par la subversion de l'Évangile. Et donc, pour comprendre la diversité des théologies, donc ce que je vais dire aujourd'hui est aussi critiquable. Je veux dire, je vais peut-être tomber dans certaines tendances que je voudrais exorciser. Parce que pour comprendre la diversité des théologies au cours des siècles, c'est important d'avoir en mémoire un certain nombre de choses. Et vous voyez sur le papier que je vous ai distribué qu'il y a deux convictions fondamentales qui, si elles n'existaient pas, ne nous inscriraient pas dans le christianisme, à savoir que le Dieu de Jésus-Christ en christianisme, c'est le Dieu qui sauve. Hein, ce n'est pas pour rien que même le mot Jésus en grec est repris, lettre par lettre, dit quelque chose de sautère. Sauveur. Et puis la deuxième chose, c'est que pour exprimer le salut, les humains, au cours des siècles, sont partis, premièrement, de leur expérience de perdition. Et ils ont vu assez vite que ça chutait souvent, qu'il y avait des dérapages quelquefois non contrôlés. Et que cette expérience de perdition, les ont fait penser les choses en termes de passage. Et alors, ils sont passés de l'absolu de la négativité, « Je suis un beau salaud !» Là, je vous réveille quand je dis ça. Vous ne le croyez pas, mais j'en suis un. Bon. L'absolu de la négativité à l'absolu de la positivité. Et c'est ça rappelle ce que je vous disais hier ou avant-hier sur le mythe de la totalité. Je suis tellement salopard, je suis tellement mauvais que je ne peux, en accueillant le salut de Dieu, que devenir parfait. Et donc, il y a ce danger-là permanent en nous, et c'est bien cette expérience de perdition qui donne l'image de la totalité. Dans le christianisme, la réflexion sur le pardon fait précéder le pardon du péché, au péché. C'est parce que je sais que Dieu me pardonne que je me découvre pécheur. La position que je vous donne là, c'est celle qui fait dire « je suis un salaud » et donc la seule chose que je puisse faire, c'est devenir saint. Saint au sens de la perfection. Deuxième chose, d'autre part, faisant l'expérience de la distance entre ce que j'espère de mon avenir, entre l'espéré et le vécu, ces hommes-là ont reporté cette réalité du salut dans un ailleurs de leur vie terrestre. Puisque ça n'est pas possible ici-bas, je vois bien que je dégringole tout le temps, s'il y a un salut possible, c'est dans un ailleurs de ma vie, et donc c'est dans un au-delà le plus souvent imaginaire. Et donc, si vous voulez, c'est cette tension-là permanente qui va exister dans la succession ou l'enterboîchement, comme je dis chez moi, hein, le mélange, l'interaction qui peut exister entre l'objet à conquérir ou à recevoir, hein, donc comme quelque chose qu'il faut que je possède, ce salut, il faut que je l'aie. Et puis, l'autre possibilité que je vous disais aussi le premier jour, à savoir considérer le salut comme un processus, une démarche, un parcours. Et vous comprenez que si vous pensez les choses en termes d'ultime, c'est-à-dire au bout du chemin, le salut ne sera que là, ou si vous pensez les choses en termes de salut comme un parcours ou une démarche, ce n'est pas du tout la même réalité théologique, mais surtout, ce n'est pas non plus la même expérience humaine. En fait, donc si vous voulez, je crois que l'histoire de la théologie va nous montrer ces attitudes variables. Parce que donc, pour me résumer, assez souvent, dans le cours des siècles, on va considérer le salut comme un état ultime, un terme à la fin de l'histoire, un point final. Il m'est venu à l'idée que ça devenait le port salut. Mais vous n'aimez pas ça, le fromage? Bon, oui, donc le salut comme un port, quoi. Hein? Et puis une arrivée, quoi. Et donc c'est le jugement dernier, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. Et l'existence humaine, elle est alors vue comme un acte préalable. Vous voyez bien ce qui va arriver avec ça, c'est faut faire des sacrifices pour. Hein? Et donc un acte préalable sans lequel l'acte final considéré n'a aucune possibilité d'être. Si je veux avoir le goût, faut bien que j'en prenne les moyens. Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, il a accentué cet aspect eschatologique du salut. Et je ne voudrais surtout pas le dénigrer, parce que c'est important, cet aspect eschatologique. Et les baptisés sont justifiés par le don de Dieu, et donc, mais seront sauvés par le jugement final. Et donc, autant de dons. Hein, quand vous entendez le chapitre 25 de Matthieu, est-ce que vous êtes à gauche ou à droite? Parmi les boucs ou les chèvres? Et donc, en fait, la justification reçue et qui nous est donnée par les Romains, par l'Épître aux Romains, eh bien, c'est un acte historique, mais qui est orienté vers ce que je vais appeler un acte transhistorique du salut. Le salut est ailleurs, dans ce cas-là. Et donc, j'ai intérêt à comprendre la justification qui est ici-bas. Pour autant, je vous mets là, le salut ne va pas sans un agir. Il sera permis aussi à d'autres époques d'employer le mot salut pour dire ce qui se passe dans l'histoire. Il va y avoir tout au long des siècles des gens qui vont dire ça existe le salut déjà là. Le salut va pas sans un agir, et l'agir de Dieu d'abord, c'est vrai. Le Christ sauve, mais il y a aussi l'agir humain, ensuite. Et à ce niveau, il y a deux possibilités encore. La première, si je définis les choses comme un état attendu, hein, c'est-à-dire le salut comme devant venir, auquel il s'agit de se préparer, mais le salut se trouve préparé dans la vie humaine par un mouvement de type ascétique. Donc on va me dire, c'est vrai, le salut c'est déjà aujourd'hui, mais à condition que je mange pas, que je boive pas, etc. Hein? Donc d'une certaine manière, dans ce cas-là, la vie humaine devient une préparation, devient une entreprise à conduire pour être digne du salut et pour être apte à recevoir le don divin dans le jugement final. Donc vous voyez, on peut concevoir que c'est déjà maintenant. Mais c'est un déjà maintenant qui est drôlement douloureux, puisqu'il faut tout penser pour. Et d'une certaine manière, dans ce cas-là encore, le salut clôt l'histoire. Et qu'on le dise ou non, il n'est pas une réalité dans l'histoire. Il ne peut pas se conjuguer avec ce qu'on a essayé de se dire ces jours-ci. Hein, parce que même si ça suppose un processus qui sera de type ascétique et moral, eh bien, la dominante reste quand même l'état. L'état du salut qui nous est réservé après. Lorsque le mot salut dit plus fortement ce qui se passe dans l'histoire, dit fortement l'état vers lequel nous allons et que cette cata-là, ça s'est converti en actes à partir desquels nous marchons. Ce ne sont pas des actes pour faire, mais ce sont des actes qui me font marcher et qui me font réaliser mon existence humaine. Parce que c'est la marche même, je dirais, dans sa dimension chaotique. Eh bien, cette marche-là, elle est importante, et c'est la marche qui devient le signe du salut, déjà là. Non pas comme une anticipation imaginaire, mais réellement comme une forme pratique d'existence. Le temps de nos vies n'est pas une durée préparatoire, n'est pas une propédeutique dont la valeur serait tout entière dans le résultat recherché. Le temps de nos vies, c'est un temps de réalisation. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux choses? Parce que Dieu lui-même a mis en acte l'état final. Il nous est possible à nous de transformer nos aspirations à l'ultime, c'est-à-dire penser le salut au bout du chemin. Mais cela, nous pouvons le reposer sur Dieu en Jésus-Christ. Il nous est possible de transformer cette propension, cette pulsion vers l'ultime, en énergie historique. En énergie historique. C'est ça qui me fait vivre aujourd'hui ce que j'ai à vivre. Et ça n'empêche absolument rien la possibilité de l'espérance. C'est-à-dire que cette espérance, elle est justement le dynamisme même de mon attente. Parce que si je n'ai plus d'attente, si je n'ai plus d'espérance, eh bien je suis déjà arrivé. Il faut bien donc que je maintienne la poursuite du chemin. Et c'est ce que, en théologie, nous appelons la parousie. Et donc, si vous voulez, dans cette deuxième position, c'est aujourd'hui que tout se joue, même si la parole divine du discernement final ne nous appartient pas. Ça, c'est une chose aussi importante, qui, Dieu sait, je vais y revenir, mais a été présente dans l'Église, à savoir que l'Église s'est donné le droit de décider du résultat final de l'arrivée de chacun. Donc nous sommes en mesure d'attendre et d'espérer si nous sommes aussi d'abord capables de rappeler activement et d'actualiser sérieusement que la Pâque, c'est tous les jours pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire ce passage de la mort à la vie, et non pas d'attendre que la vie vienne simplement au bout du chemin. Troisième remarque, c'est que quelles que soient les conclusions mises en valeur au cours des siècles, et vous voyez bien que le combat, c'est entre l'état ou la marche, c'est-à-dire le je suis sauvé à quelque moment que ce soit dans ma vie, soit, ou bien de dire je vis un salut en marche, eh bien, il n'empêche que quelles que soient ces prises de position, le salut, c'est d'abord un acte gratuit qui vient de Dieu, ce que je vous ai écrit sur le texte, et qui s'accomplit dans nos histoires, ou dans notre histoire, afin de nous conduire au seul bonheur que nous désirons tous. Et donc, si vous voulez, le fait que nous puissions affirmer cette initiative de Dieu, ça nous libère à la fois de notre finitude créée, et de notre finitude pécheresse. Parce que la première, la finitude créée, c'est que je suis un être limité, hein. Et donc, cette première libération nous permet, quoique finie, de réaliser notre vivre en communion avec la vie infinie de Dieu. Parce que ça, c'est un problème. C'est celui que nous abordions ce matin. Comment c'est possible que moi, un être fini, je puisse rencontrer l'infini de Dieu? Alors, ou bien je deviens Dieu, ou bien la finitude que je peux vivre, eh bien, elle est transformée, prise en main par l'initiative de Dieu, qui nous libère de cette finitude pour le rencontrer. Mais c'est bien comme personne finie que je le rencontre. Et aussi, la possibilité de la libération de notre finitude pécheresse, parce que je sais que même que je sois en rupture d'amitié avec lui, eh bien, cette initiative de Dieu me reconduit à lui, mais par lui. C'est ce que je vous disais sur le pardon. Il n'est pas possible de penser le salut. Il n'est pas possible de penser que nous sommes, enfin, il n'est pas possible de penser que nous sommes pardonnés si nous mettons le péché avant le pardon. Le péché succède au pardon, si j'ose dire. Ou tout au moins, la prise de conscience que je peux avoir de mon péché succède toujours à la prise de conscience que je suis aimé de Dieu. Ça, c'est fondamental. Et ça change tout dans la vision du salut. Et donc, c'est autour de cette double libération, donc libération de ma finitude créée, de ma finitude pécheresse, que va exister un double mouvement en théologie, à savoir le mouvement descendant, c'est-à-dire le Christ unique médiateur, qui est donc ce mouvement-là, celui qui va de Dieu à l'homme, et le mouvement ascendant, qui va de l'homme à Dieu. Eh bien, à partir de cette double réalité de mouvement, on va avoir des images scripturaires qui vont être différentes, hein, qui vont exprimer différentes facettes de notre salut et différentes manières au cours des siècles de comprendre le salut. Mais toutes ces images, n'oublions pas qu'il ne s'agit que d'images, qu'il ne s'agit pas de concepts. Ça veut donc dire que toutes les images que nous allons utiliser ou qui sont utilisées dans l'écriture, ou même celles qui ne seront pas utilisées dans l'écriture et qu'on inventera au cours des siècles, eh bien ces images-là ne collent jamais à la réalité visée, ou tout au moins elles ne correspondent jamais totalement. Ce ne sont que des approches, ce ne sont que des métaphores qui exprime autant que faire se peut la transcendance de Dieu et notre relation à cette transcendance. Ce sera toujours ça la difficulté. C'est-à-dire, comment dire en même temps que nous sommes des êtres humains et donc que nous ne sommes pas Dieu, et comment dire en même temps qu'étant êtres humains, nous pouvons rencontrer Dieu. Eh bien, on va utiliser des images au cours des siècles qui vont approcher. Quelles sont ces images? Je vous les décline et puis on les verra après. Adoption filiale, justification, rédemption, libération, rançon, rachat, sacrifice, expiation, satisfaction, substitution, solidarité. Et c'est la manière dont on va utiliser ces termes qui va donner naissance à diverses théologies du salut au cours des siècles. Et donc, il ne faudra pas vous étonner que je vous dise qu'il y en a qui aujourd'hui ne sont plus buvables. Mais il n'empêche que cela a traîné et que surtout, ne pensez pas que sous prétexte que je dise que cette position est plus moyenâgeuse ou médiévale, que ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, je vous mets dans mon plan un unique médiateur, le Christ. Et ça.
Est-ce que je peux t'arrêter une petite
Oui.
question? Tu as dit descendant et ascendant, et sur ton plan, tu mets ascendant et descendant. C'est exprès?
Oh non.
Ah ben, ça veut dire des...
Ben non, ça veut dire que les deux existent, c'est tout.
D'accord.
C'est tout, oui. Non, parce que, justement, la grande question, ça va être que je ne sais pas ce que vous faites, vous. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir par où vous commencez. Est-ce que vous avez une vision théologique du ascendant ou descendant? Mais je vais y revenir tout à l'heure, donc vous allez pouvoir vous choisir après. Alors, peut-être que je dirais qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, alors peut-être que vous engouffrerez, mais je ne le ferai pas, vous en faites pas. Et donc, la grande question, c'est que, comme je vous mets sur le papier, privilégier cet accent de l'unique médiateur, le Christ, donne place ou non à diverses théologies aussi. Pourquoi? Quand vous regardez... Ah mince, j'ai pas pris ma Bible. Quand vous regardez 1 Timothée 2,5, que vous avez sûrement à côté de vous. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur, aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. Jésus, Christ Jésus. Alors, attendez que je vous retrouve. C'est tout, d'ailleurs. Hein? Mais après, c'est intéressant quand même aussi. Donc, 1 Timothée 2,5. Il n'y a qu'un seul médiateur aussi, entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, un seul médiateur, ça veut dire que je fais le choix d'entendre ce qui m'est dit dans les Écritures, que Jésus-Christ est médiateur du simple fait de qui il est, hein, vraiment Dieu et vraiment homme. Alors ça, c'est une conviction qui touche à la réalité même du christianisme. Nous avons le droit de ne pas le croire, mais dans ce cas-là, nous prenons quelques distances avec le christianisme. Donc, ce Christ-là peut réunir l'homme et Dieu. Il est, là j'approche, je fais des mots d'approche là, hein, il est comme la plateforme de la communication entre Dieu et l'humanité, et cela dans les deux sens, Michel, ascendant et descendant. Et le danger viendra de ce que, à certains moments de l'histoire, on parlera de la médiation de l'Église comme équivalente de la médiation du Christ. En 72-73, j'ai pas été vérifié, je me rappelle plus exactement, Mgr Coffi, cardinal de son état après, eh bien, soulignera que l'Église n'est pas le Christ, mais seulement le sacrement du Christ. Et donc, si vous mettez une équivalence entre la médiation du Christ et la médiation de l'Église, eh bien, ça découle plutôt du fait que on voit bien que le Christ n'est plus là ici-bas. On dit qu'il est parti à la droite de Dieu. Hein? Et donc, c'est cette médiation unique du Christ, elle a besoin d'être représentée, d'être actualisée au-delà de la période de la vie de Jésus, et cela par la vie ministérielle de l'Église. L'Église, d'une certaine manière, c'est l'institution de l'événement du Christ. L'Église, c'est celle qui porte cet événement dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui encore, hein, et donc qui a mission de rendre cet événement présent. Si je fais une équivalence, je suis fichu. Et donc, il faut bien que j'accepte de me dire... La médiation du Christ est le fondement transcendant, hein, fondement unique, comme vous dites, là, oui, hein, qui relie à Dieu dans les deux sens, que je monte ou que je descende. Mais ça ne peut s'exprimer que par la médiation, je vais utiliser le mot, d'instrumental de l'Église. Ça vous paraît peut-être compliqué de dire comme ça, mais si je mets ces deux médiations en équivalence, ça provoque, au cours des siècles, des excès, jusqu'à faire oublier à l'Église qu'elle n'en est que le sacrement, qu'elle n'en est que la médiation. Si je les mets équivalents, eh bien, parce que déclaré directement médiation entre Dieu et les hommes, eh bien, sa réalité humaine ses capacités humaines de chuter, de se tromper, eh bien, vont la faire tomber dans les déviations qui sont liées à sa finitude, hein, et qui, reliant le salut à des conditions déterminées par elle, décidant des conditions de salut, et la toute-puissance, lui donnant la toute-puissance, le tout-savoir, le tout-valoir et le tout-pouvoir, jusqu'à vouloir décider de qui est sauvé, jusqu'à vouloir dire, si vous faites cela, vous serez sauvé. Si vous n'allez pas à la messe le dimanche, vous aurez un péché mortel. Parce que ce sera une décision, étant donné que l'Église, dans certains moments des siècles passés, a cru bon de dire que l'Église était la médiation entre Dieu et les hommes, squeezant d'une certaine manière la médiation du Christ médiateur. Est-ce que je suis clair là-dessus? Hein? Parce que c'est fondamental. Et donc demain, on vous parlera de la dimension sacramentelle de l'Église. Mais ça, c'est fondamental. Et il faut se battre contre ça. Et chaque fois, au moins dans mon Église catholique, que j'entends que Rome prend la place du Christ, je dis non. C'est fondamental. Quand vous avez comment je dirais, des décisions de la part de Rome qui ont l'air de prendre la place de la conscience des gens, non. Je vous réveille là. Je ne veux pas que vous dormiez. Du côté de la médiation descendante, enfin ça c'est fondamental, hein. Ce que je dis là, ça met tout en jeu ce qu'on peut dire sur la descendante et l'ascendante. La médiation descendante, quelles sont donc les images scripturaires et les théologies qui en ont découlé au cours des siècles? Je commence par, j'en ai mis trois, l'adoption filiale, la justification, la rédemption, la libération. L'adoption filiale, si vous voulez, je mettrais bien en face cette petite formule qui n'est pas de moi, mais je me suis beaucoup servi de Bernard Sézouet pour travailler cette question-là, la théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi. Et il a cette expression que je trouve belle. Je me demande si c'est pas d'un autre que de lui, mais enfin, plus je deviens homme, plus Dieu me divinise. C'est un peu ça que je dirais dans l'adoption filiale. Parce que on dit des bêtises sur la divinisation de l'homme, qui ferait croire que, au fur et à mesure, je deviens Dieu. Non, c'est plus je vais au maximum de mon humanité, plus Dieu me divinise. Parce que plus je suis un homme, j'essaie de grandir en humanité, plus je deviens enfant de Dieu. Je vous ai mis des passages de texte, là, Romains 8, 15. Peut-être qu'on peut regarder Romains quand même. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave, je vous le dis pour ce matin aussi, hein, et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Pas un esprit, vous n'avez pas reçu, je cherche, un esprit qui vous rend esclave, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Et donc cette image, encore une fois, qui n'est pas un concept, qui est une métaphore, qui est un essai de compréhension pour nous dire quelle est la relation que nous avons, que nous pouvons avoir, pardon, entre Dieu et les hommes, eh bien, ça fait de nous, cette image-là, des frères du Christ et des fils du Père. Ou des fils du Père, et donc, par ce chemin-là, des frères du Christ. Et cette expérience de l'adoption s'exprime de façon expresse en deux pierres. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 4. Ben c'est bien, je ne l'avais pas mis, c'est bien qu'on pourrait rajouter. C'est pour vous empêcher de dormir. Par elle, c'est-à-dire par la gloire et la force agissante de Dieu, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceux-ci vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et on est bien dans cette réalité d'une divinisation. Un pierre. Ah, deux pierres. J'ai peut-être bien lu un pierre d'ailleurs, moi. C'est deux pierres, c'est ça? C'est bien. Deux pierres, un quatre. Hein? Et c'est là que nous voyons qu'il s'agit d'une image ou d'une métaphore, parce que il s'agit d'une relation humaine transposée en fonction de notre relation à Dieu. Et au cours des siècles, donc, ça va donner une vision différenciée de notre divinisation. Et à des moments de certains siècles, on va laisser penser que nous serions arrachés à notre humanité pour devenir des dieux. Et c'est pas du tout ça qui est dit ici. L'adoption filiale ne nous rend pas, ne nous fait pas devenir des dieux. Et ça, ça a des répercussions fortes sur la théologie du salut. Hein? Parce que être sauvé reviendrait à sortir de son humanité, à aller le plus possible du côté de Dieu. Donc à quitter le monde, ce monde mauvais. Alors il y a des problèmes quand même, parce que Christ y est venu. Il n'est peut-être pas si mauvais que ça. Et même s'il est mauvais, il est possiblement sauvable. Et donc, une humanisation et divinisation ne sont pas en proportion inverse. Chose qui existe lorsque je dis que je dois devenir comme Dieu. Alors là, je reprends encore Nietzsche, hein. Le surhomme, c'était ça. C'était Dieu est mort. Et donc, ce n'est pas en proportion inverse, c'est en proportion directe. La phrase que je vous disais tout à l'heure, plus je deviens homme, plus Dieu me divinise. Et vous comprenez que ça, je ne peux pas déterminer que c'est à tel moment dans l'histoire que ça s'est passé, car aujourd'hui encore, nous avons des glissades sur la divinisation. Si je regarde la justification, voilà encore un autre langage pour dire quelque chose du salut, et pour le dire dans la médiation descendante, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu à l'homme. Eh bien, ça fait la justification, ça fait référence au fonctionnement de la justice humaine, mais dans un sens paradoxal. Parce que la justice de Dieu, on ne peut pas l'utiliser dans le même sens que ce qu'on utilise dans le côté humain. Ça n'est pas celle qui condamne le pécheur, la justice de Dieu. Hein? Elle n'est en rien vindicative, elle est la justice salvifique qui accomplit par grâce les promesses de Dieu. Moi j'aime bien quand je travaille ça, j'aime bien le mot s'ajuster à. Hein? Parce que la justice de Dieu, elle rend sa justice au pécheur en lui faisant grâce et en lui redonnant l'amitié divine. C'est pas un coup de marteau sur la tête, quoi. Et à ce don de la justice, c'est le don de la justice que Dieu propose, eh bien, va répondre l'acte de foi, comme Abraham, comme la Vierge. Regardez, repensez à Hébreux au chapitre 11, hein, par la foi, par la foi, par la foi. Mais c'est bien là, quand même, qu'au cours des siècles, il y a eu problème. Même si c'est l'expérience de Paul, d'Augustin, de Luther, qui comprennent, qui nous disent que c'est le Christ qui nous justifie et non pas nos œuvres. Là, autour de cette question-là, ça va faire un nœud. Hein? Parce que quand on dit c'est en même temps la justice que Dieu propose, mais en même temps ma réponse de la foi, eh bien, va se mettre en place une opposition entre le don de Dieu, la foi, et les œuvres. Plus ou moins, foi seule, œuvre nécessaire. Enjeu, là, c'est vraiment l'enjeu, un des enjeux préférés de la controverse entre catholiques et protestants. Hein? Controverse qui va trouver son durcissement au Concile de Trente, non pas d'ailleurs forcément dans les textes théologiques, mais plus dans cette nécessité pour le Concile de Trente de s'opposer à la démarche réformée ou à la démarche de Luther. Et donc, cette controverse va donner lieu entre les années 70 et 99 de notre ère, enfin du siècle précédent, eh bien, à une recherche de dialogue et à une déclaration qu'on appellera la déclaration d'Augsbourg, qui constate qu'au-delà des sensibilités et des formulations théologiques propres les unes aux autres, ça, de toute façon, les frères protestants et les frères catholiques ne disent pas la même chose à ce sujet-là, eh bien, enfin, tous ces dires-là sont bien unis dans la communion d'une même foi en Jésus-Christ, et dans Jésus-Christ unique, sauveur et unique médiateur du salut. Et donc, ce qui est assez étonnant, ce qui, au moment du Concile de Trente, je vais vous faire des oppositions un peu fortes pour qu'on comprenne les enjeux. Du côté des réformés, ou des réformateurs, plutôt pour ne pas mélanger réformés et luthériens, les réformateurs disaient, il y a une corruption totale de la nature humaine. Face à ça, les cathos, au Concile de Trente, disaient, il y a quand même une liberté en l'homme. D'un côté, du côté des réformateurs, l'homme est entièrement passif à l'égard de la grâce de Dieu qui justifie. De l'autre côté, Trente essayait de dire, non, l'homme y coopère à l'œuvre de la grâce. D'un côté, le processus de justification est tout entier du côté de Dieu. Du côté des cathos, non, il existe vraiment. Il y a un renouvellement intérieur de l'homme. D'un côté, les œuvres sont bonnes, les œuvres bonnes sont les fruits de la grâce. De l'autre côté, on parle du caractère méritoire des œuvres du salut. C'est ce qui avait donné l'objet de la bagarre du côté de Luther, disant que les indulgences, quand même, ça va bien, quoi, avec les mérites. Eh bien, si vous voulez, là, j'ai été un peu noir et blanc, là. Bon, je ne veux pas noir et blanc, noir et noir. Bon. Mais parce que dans les dialogues, il y a eu une relecture commune des écrits des réformateurs et des thèses du Concile de Trente. Cette relecture a mis au jour qu'il ne s'agit pas tant de positions frontalement opposées, mais de documents habités par des soucis différents. Et quand on pense que ces bagarres-là, elles ont duré 4 siècles, sur une incompréhension. Qu'au bout de 4 siècles, on dit, mais non, quand on regarde de près, on a la même foi au Dieu de Jésus-Christ. On a la même foi dans le salut de Dieu. Et c'est vrai, d'un côté, il y en a qui vont insister sur le don merveilleux de Dieu, de ce salut toujours donné. Et de l'autre côté, il y en a qui vont dire, oh, mais enfin, faut se retrousser les manches de temps en temps. Jamais, jamais les catholiques n'ont refusé le don de Dieu, jamais les protestants n'ont refusé qu'il fallait s'y mettre aussi. Bon. Mais seulement, dans la formulation, eh bien, ça s'est durci jusqu'à se tuer quand même. Hein. La Saint-Barthélemy, c'est pas rien. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler le consensus différencié, excusez pour ceux qui connaissent déjà ça, permettant les deux approches dans une relation de diversité. Et si vous allez voir ce texte-là sur la justification, vous verrez qu'il y a toute une première partie qui essaie de dire le consensus, les points communs et les différences, spécialement différences de formulation, différences de langage, sachant que ces différences ne sont plus séparatrices, mais réconciliées. Ce qui nous fait redécouvrir aussi que les différences sont une chance et non pas un danger. Donc, si vous voulez, j'ai oublié de d'amener mon texte sur la justification, mais je pense que ça, c'est drôlement important ce qui s'est passé, et pour moi, c'est une des grandes chances de l'avenir de l'œcuménisme. Si nous appliquions cette théorie du consensus différencié, sans doute que nous irions plus vite à vivre l'œcuménisme. Mais il est vrai qu'encore une fois aujourd'hui, eh bien, la théologie protestante reste très marquée par la justification, tandis que le catholicisme catholique Alors, le catéchisme catholique, eh bien, n'est pas très très friand de cette affaire-là. Enfin, on a fait une avancée, mais l'avancée est sans doute à trouver dans des langages différents pour que chacun et chacune, nous puissions reprendre un langage. Moi, je ne suis pas sûr que le mot justification soit un mot facile aujourd'hui, mais par contre, qu'il y ait cette. Je renvoie aussi à ce qui s'était dit ce matin, quoi. C'est-à-dire que la mutualité, elle existe aussi entre Dieu et l'homme. On pourra y revenir. Hein. La rédemption et la libération. Alors, ce terme, il est devenu tellement répandu qu'il en est arrivé à devenir synonyme du salut à certaines périodes. Alors, c'est vrai qu'il est un peu présent dans le Nouveau Testament, de même que le mot libération. Et c'est vrai que le mot libération, aujourd'hui, il est préféré au mot rédemption. Mais de toute façon, ce sont deux termes qui sont très proches et qui nous disent qu'il s'agit d'un combat douloureux et victorieux. Là, je renvoie à ce que disait Denis ce matin sur l'esclavage. La rédemption, elle renvoie dans le Nouveau Testament à la pratique dans l'Antiquité du rachat des esclaves, justement, et à la délivrance d'un peuple réduit à l'esclavage, donc c'est donc l'Exode. Mais ce rachat-là, il s'accompagnait de l'idée de la rançon, tel le texte qu'on lisait tout à l'heure. Hein. Et ce n'est pas totalement idiot de penser ça, puisque il suffit de penser à la prise d'otage aujourd'hui. Hein. Ça peut exister. Mais il s'agit encore d'une métaphore. Si j'essaie de comprendre ce que ça veut dire donner sa vie en rançon, eh bien, je mettrai d'autres formules. Ça lui a coûté cher. Ou bien il a mis le prix. Il a payé de sa personne. On n'est plus dans une compréhension du mot d'équivalence, quoi. Et le Christ, on peut dire qu'il est allé jusqu'à la mort dans sa lutte victorieuse contre le péché. Il y a mis le prix. Alors, on peut, enfin, à partir de ce que je viens de vous dire, vous pouvez comprendre la dérive qui va s'opérer au Moyen Âge. Mais déjà chez les pères de l'Église, au Moyen-Âge, lorsque la théologie estimera que la rançon devait être versée à Dieu lui-même en compensation de l'offense des hommes vis-à-vis de lui. Et qui c'est qui devait payer la rançon? Eh bien, c'est seul le Christ qui pouvait répondre aux exigences de justice pour que le pardon de l'humanité soit possible. Et ça, si vous voulez, ça a enclenché des tas de dérapages de pensée, disant que le père voulait la mort de son fils, que etc., etc., parce que c'était trop gros le prix à payer. Donc ça, si vous voulez, la notion de rachat véhiculée spécialement par les théologiens du deuxième millénaire, c'est une vision terrible, hein. Oui, c'est de ce genre-là. Ça va provoquer des chants, ça va provoquer. Oui, mais les chrétiens, je pense aussi à l'autre, à Dies Irae, ce que vous voulez. Si je descends d'un cran, et là je remonte, la médiation ascendante. Quelles sont les images scripturaires et les théologies qui en ont découlé au cours des siècles? Je vous mets d'abord le mot sacrifice. Alors, ça, sans doute que votre jeunesse en a été pleine. Hein, les petits sacrifices que vous ajoutiez, oui, pendant le carême, là. Alors ça, voilà un mot que nos amis, les réformateurs, ne peuvent plus voir. Eh bien, moi, je vais vous dire qu'il faut le voir encore. Mais, faut faire l'anthropologie du mot sacrifice. C'est un thème qui a été remis en chantier par les travaux, vous connaissez peut-être, de René Girard, qui a refusé, lui, ce qu'on a appelé le pacte sacrificiel, qui a eu cours dans le christianisme. Le pacte sacrificiel, c'était quoi? C'était dire que l'homme versait à Dieu une compensation équivalente au poids de l'offense faite. Tandis que Dieu s'engageait à pardonner après que la prestation humaine soit faite. Donc ça ne pouvait venir qu'une fois le sacrifice fait, qu'il s'agisse d'un gros sacrifice ou des petits sacrifices de carême. Alors sûrement que Gérard avait raison de réagir contre cette conception théologique du pacte sacrificiel. C'est horrible. Mais peut-être qu'il avait moins raison de refuser formellement le terme de sacrifice et de projeter ce terme sacrifice dans celui des dévoyés et déplacés de pacte sacrificiel. Le terme de sacrifice est présent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais c'était intéressant de se rendre compte justement que le sens du terme, il est modifié entre les sacrifices de l'Ancien Testament et les sacrifices du Nouveau, avec des nuances d'ailleurs. Hein? Avec des nuances, parce que par exemple, hier, Denis nous a donné un texte parlant du sacrifice spirituel. Hein? Mais bon, la tendance a été quand même de parler du sacrifice du Christ comme un sacrifice existentiel, hein, comme un sacrifice spirituel. Ça veut dire quoi, sacrifice existentiel? C'est le don de sa vie, hein, jusqu'à la fin, par amour de son Père et par amour de ses frères. Donc, le caractère onéreux du sacrifice ne vient pas du Père, qui ne veut pas la mort de son gars, hein, mais vient des hommes, et sous sa forme douloureuse, ça accomplit le retour de l'humanité à Dieu, et c'est là qu'est son salut. Et donc c'est bien sûr au cœur du sacrifice existentiel, et on y reviendra demain, sur le problème de comment toute sa vie peut être sacramentelle. Et donc la vision du pacte sacrificiel, eh bien forcément, va avoir aux époques modernes, je parle du 18e, 19e, eh bien, des répercussions néfastes sur la conception de la mort de Jésus. Plus ça saigne, mieux ça vaut. Et aussi de la conception de l'Eucharistie elle-même. Puisqu'il y a des théologiens et des gens qui pensent encore aujourd'hui qu'à chaque Eucharistie, eh bien, on renouvelle le sacrifice sanglant du Christ. Quelle horreur! Et donc, si vous voulez, alors que le plus important, bien sûr, il est au cœur de cette démarche du don total, en reprenant ce que certains d'entre nous avons dit depuis hier, à savoir que ce don total, il est à renouveler, enfin, nous sommes invités nous-mêmes à entrer dans ce sacrifice, c'est-à-dire dans le don de soi. Le mot sacrifice, c'est sa chair fachérée, hein, c'est faire du sacré. Et donc, c'est le sens même de la relation entre l'homme et Dieu. Et aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de nous saigner les veines, dans tous les sens du mot. Sauf d'aller jusqu'au 80, c'est ce que tu dis.
Oui, enfin, j'entends la réflexion de certains parents qui se sont saignés
voilà.
Les veines par amour de leur
ça, c'est bien. Ça, ça va.
Je viens de dire que c'est la dimension
métaphorique.
C'est par amour de Dieu.
Voilà, c'est ça.
On peut renoncer à des choses.
Si je passe à l'expiation. Alors ça, c'est un terme qui est aussi présent dans le Nouveau Testament, je vous en ai mis quelques références, et c'est un terme qui nous heurte autant que le précédent. Hein? Parce qu'une fois encore, il s'agit d'une image empruntée à l'histoire des religions, et pris dans son sens direct, enfin c'est heurtant, moi ça me heurte toujours, pris dans ce sens spirituel, ça signifie quelquefois intercession. Et donc, voir quelquefois on utilise le mot propitiation. Bon, enfin, c'est tellement gros ce mot-là que vous n'utiliserez jamais. Hein? Hein? En fait, c'est quoi? Il s'agit d'une prière qui engage toute la vie. Ce sont des mots qui aujourd'hui n'ont plus de réalité et qui ont été tous embarqués dans le donnant-donnant, si vous voulez. Hein? T'as fait ça, tu dois faire ça, quoi. Hein? Donc, c'est plus de demander à Dieu, intercède pour nous, au nom de la solidarité que nous pouvons avoir, que tu as eue avec l'humanité et toi, Jésus-Christ. Les siècles vont jouer sur la présence du sang dans certains textes du Nouveau Testament, et donc vont amener un certain nombre de théologies à une vision sanguinolente. Alors que ces textes, les textes qui présentent le sang, ce sont les textes qui présentent le sang comme une partie prise pour le tout, c'est-à-dire le don existentiel de la vie de Jésus. Moi, je sais que quand je célèbre l'Eucharistie, je ne dis pas ceci est mon sang. Je dis ceci est mon sang versé pour vous. Je ne dis pas ceci est mon corps. Je dis ceci est mon corps livré pour vous. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est la livraison. Ce n'est pas la correspondance entre ceci et mon corps. Ce n'est pas la correspondance entre ceci et mon sang. C'est le sang versé pour la multitude. Et donc on retrouve là encore, vous voyez que tous ces mots-là qui ont traîné dans les siècles, eh bien ils reviennent toujours à la même position, à savoir essayer de comprendre ça dans le sens de l'existentiel de Jésus. Et puis le dernier mot, la satisfaction. Oui.
Il y a une erreur dans la cita dans la
Oui.
référence. Hein. C'est Romains 3,
Les erreurs,
25.
oui.
35
Oh,
et 25.
alors. C'est 25, bien sûr. C'est oh, ces ordinateurs, il n'y a rien à l'autre. Le mot satisfaction. Excuse-moi, James. Le mot satisfaction, c'est un terme qui n'est pas employé dans l'Écriture et qui nous vient à partir du Moyen Âge, de la doctrine de la pénitence. Anselme utilise cette formule dans son sens. Je dis Anselme parce que nous avons quelqu'un du bec et loin ici, donc il fallait que je fasse un effort. Hein? Anselme.
Il a quand même une lourde
Oui, je vais vous le dire. Mais en même temps, son sens étymologique est intéressant parce qu'il dit. Satisfaction, ça veut dire en faire assez. Hein? Et non pas au sens de compenser intégralement. En faire assez. Hein? Et la théologie scolastique va propager l'idée de l'exigence d'une compensation exacte du mal commis. Ça va être ça, là, je dirais, comment je dirais, la dérive permanente, quoi. Hein? Donnant, donnant. Et donc, si on parle d'une satisfaction, il faut que ça corresponde exactement au mal que tu as fait. Et donc, une compensation qui va être accomplie avant le pardon pour que celui-ci soit possible. Et ça a été dans la pratique de la pénitence jusqu'au 12e, 13e siècle. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, l'excellent livre sur le pardon qui se trouve là-bas. Et en fait, la satisfaction ne peut se faire d'une certaine manière qu'après le pardon. Est-ce que toi qui as compris que tu étais aimé de Dieu, que tu avais reçu, malgré ta bêtise et tout ce que tu es, le salut de Dieu, es-tu capable d'en faire assez pour correspondre à ce salut que tu as reçu? Mais ce n'est pas du tout ce sens-là qui a présidé au mot satisfaction. Et donc, d'une certaine manière, la satisfaction, ça a renforcé l'idée de rachat, hein, l'idée de correspondance. Et donc, ça a forcément fait déraper l'idée de justification. Je passe sur la substitution, parce que c'est du même ordre, si vous voulez, hein. Sauf que la substitution que l'on met du côté du Christ, quoi. Eh bien, aujourd'hui, on lui préfère le mot de solidarité. Et il y aurait à chercher comment la théologie spécialement liée, je pense, à la théologie de la libération, et aussi tout ce que l'on pourra dire demain matin sur la dimension existentielle de notre existence, eh bien, peut nous dire quelque chose de la solidarité entre, enfin, de Dieu avec l'homme, du Christ avec l'homme et les uns d'entre eux. Mais tout cela étant forcément lié. Et donc ça donne une dimension collective et sociale à notre salut.
Je serai aussi très fort dans Isaïe 53, la substitution.
Oui.
Il a vraiment pris notre
voilà,
place.
Notre place. Mais si vous voulez le prix de notre place, le risque, vous voyez bien où ça va. Je m'en lave les mains, quoi.
Ça...
Mais je veux bien. Oui, bah, toujours. Bah, j'ai fait que ça tout à l'heure. Hein. J'ai essayé que de vous dire les déviances théologiques que des choses intéressantes pouvaient nous proposer.
Mais il peut y avoir
une
substitution dans le bon sens.
Tout à fait, oui. C'est pour ça que j'ai mis le mot solidarité en face. Quoi. Hein. Je ne vais pas intervenir trop sur, en conclusion, parce que je vais vous faire une autre conclusion que celle que j'ai préparée. C'est si je vais un peu vite. Je crois que le Moyen-Âge et les temps modernes, quand on parle de temps moderne, c'est les temps qui ont précédé le 20e siècle. Hein. Les temps modernes ont plutôt privilégié le mouvement ascendant et donc ont focalisé le salut sur la libération du péché. Et dans ce cas-là, la rédemption, c'était plus l'initiative de Dieu qui venait racheter son peuple, hein. Mais c'était devenu l'ensemble des conditions exigées de l'homme pour que Dieu puisse lui pardonner. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Progressivement, c'est devenu ça. Et tous les mots que je vous ai utilisés sont allés dans ce sens-là. Et donc, c'était la justification, c'était plus l'acte de Dieu venant justifier le pécheur, c'était l'acte de l'homme venant rendre justice à Dieu offensé. Hein? Il fallait que je sois là, à la hauteur, quoi. Puisque j'ai fait ça, je mérite bien ça. Tandis que depuis le 20e siècle, mettons, moi je dirais assez facilement, depuis le Concile Vatican II, eh bien, nous pouvons penser que, même si ça a existé tout au long des siècles, encore une fois, la typologie que je vous donne là maintenant est dangereuse. Hein. Mais c'est l'initiative du salut et du pardon, ça vient de Dieu, et se situe donc avant l'exigence de réparation. Le salut m'est donné, ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire, ça veut dire que Dieu n'est pas, comment je dirais ça, n'est pas lié, il n'y a pas de chose de cause à effet. Hein? C'est la gratuité totale. Mais cette gratuité qui me fait découvrir l'amour immense de Dieu me fait aussi découvrir que je suis son enfant et que si je veux vivre une relation avec lui, il me faut transformer mon existence. Mais on n'est plus dans la peur de Dieu. On est dans le remerciement et l'action de grâce et disons que la pénitence devient l'occasion d'une action de grâce, l'occasion d'une joie. Nous devrions toujours être heureux si chaque fois que nous revenons du sacrement de réconciliation. Je vais vous lire maintenant un petit passage d'un bouquin d'un copain qui correspond tout à fait à notre travail, mais qui pourra ouvrir aussi des choses pour demain matin. C'est Bernard Mercier, un théologien de notre diocèse, qui a écrit un bouquin Plongé dans les ténèbres, pendant la guerre d'Algérie. Et donc, il est, l'Algérie française l'a emporté, et que les cris OAS et Algérie française sont dans les rues, et il descend aux enfers. Sentir cette foule révoltée et haineuse eut sur moi un premier effet. Le début est rigolo. J'ai dû me soulager le ventre au pied d'un tout petit arbuste que je trouvais beaucoup trop petit pour la circonstance, mais ça ressemble à ce que disait Paul ce matin. Le mercredi matin, c'était ça. Que ces choses-là sont joliment dites pour une tension maximale qui faisait ses premiers ravages dans mon corps. Unité de l'être, correspondance entre toutes ces dimensions, physiologique, psychique, socioculturelle, et pour leur perte de sens. La perte de sens était l'effet le moins visible en moi, mais certainement le plus assuré. Je pourrais la qualifier aujourd'hui de vide existentiel ou de descente aux enfers de l'inhumain, en moi plus qu'en tout autre probablement à cet instant. Un profond dégoût de toute chose. Le sentiment de l'inutilité de l'existence et son incompréhensibilité de sa vanité. Où était désormais le mal, où était le bien? Comment traduire avec des mots le fait de se quitter ainsi soi-même quand plus rien ne vaut? Rien, même pas soi-même. Ou soi-même comme une absence à soi. Bref, j'étais vidé. J'avais certes déjà connu mensonge et trahison, mépris de la vie, perte de camarades, mais il s'agissait des autres. Je ne m'étais pas rendu compte à quelques sentiments près de vengeance et un état de profond écœurement qu'il s'agissait aussi de moi. Il suffit souvent d'ajouter une dernière sardine à la charrette pour faire crever le baudet. C'était la dernière sardine, la sardine en trop. Cette foule qui, quelques mois plus tôt, nous acclamait, avait fait volte-face. Elle nous en voulait à mort. Je n'étais pas en état de le comprendre. Pour comprendre, il faut encore habiter en soi, réfléchir et non pas ressentir. Je ressentais l'absence. Tout m'était devenu indifférent. J'avais tout quitté, et les autres, et moi, et Dieu. J'étais sans attache, perdu. Oui, je m'étais perdu. Et voilà qu'une voix m'a retrouvé. Comme Pierre-Marie Baude le dit dans un de ses livres, il est venu quand je ne l'attendais plus. Il était, paraît-il, de grande puissance et de renom. Et cette voix qui m'a retrouvé, j'ai eu cette grâce, en plein milieu de ce vacarme, d'épouvante, d'entendre prononcer d'une voix forte et pourtant toute intérieure, cette phrase quasiment identique à celle du symbole des apôtres, mais dite en première personne, une phrase à laquelle jusque-là je n'avais jamais prêté la moindre attention. Je suis descendu aux enfers. Une voix distincte et ferme, irrésistible, sans appel, une phrase prononcée comme une évidence. Je pense aujourd'hui à ces quelques lignes de Simone Veil. Tous les mouvements de l'âme sont régis par les lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. Il faut toujours s'attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur, sauf intervention du surnaturel. C'est alors la pesanteur de la grâce et elle fait le poids. J'ai immédiatement éprouvé une paix profonde. Rien n'avait pourtant changé dans la rue. Le vacarme y était toujours aussi intense, mais il n'avait plus pour moi aucune importance. Tous les cris et les bruits de toutes sortes étaient comme anéantis sans cesser d'exister. La puissance était ailleurs. Dans cette voix si mystérieuse, je venais d'apprendre que Dieu habite aussi les enfers de l'inhumain et que plus jamais je n'y serai seul, ni moi, ni personne d'autre. Je n'avais pas prié, je n'avais rien demandé, je ne m'étais pas disposé à accueillir, j'étais simplement vide de toute chose. Et cet autre texte, il continue parce que, après avoir fait cette expérience-là, il a essayé de travailler Jean de la Croix. Et il dit, Jean de la Croix, tant que l'âme ne se dépouille pas de tout, elle n'a pas en elle la capacité voulue pour recevoir l'Esprit de Dieu en pure transformation. Et il continue, le néant dans lequel je me trouvais alors me permettait maintenant d'entendre ses paroles et d'y adhérer. J'avais longtemps goûté le monde, et sans doute n'avais-je pas tort de le faire, mais je l'avais goûté sans Dieu ou si peu avec lui. Jean de la Croix m'emmenait plus loin. Pour arriver à goûter de tout, disait-il, n'ayez goût de rien. Pour arriver à posséder tout, souhaitez ne rien posséder. Pour arriver à savoir tout, souhaitez ne rien savoir. Pour parvenir à ce que vous ne savez pas, passez par où vous ne savez pas. J'apprenais de lui que ce passage par la nuit était un point de départ, une sorte de nécessité pour être conduit jusqu'à Dieu. En effet, les affections en tout genre que nous vivons en ce monde ont une fâcheuse tendance à rétrécir l'horizon, voire à le barrer, à moins d'être des attaches non nouées, alors que le néant, lui, ne résiste pas. La distance prise avec elle prend, dans un premier temps, figure d'anéantissement, tellement la privation est rude. Mais ce ne serait pourtant pas en pure perte, dit Jean de la Croix, car il s'agissait bien au sortir du néant, de goûter de tout, de posséder tout, mais cette fois par Dieu même. Tout le paradoxe était donc là, tout perdre, pour que tout soit redonné dans une autre lumière. Expérimenter la grâce d'être par un autre. L'âme doit se trouver dans les ténèbres pour recevoir la lumière dans le chemin de l'union. Est-ce à dire qu'il faille rechercher les ténèbres? Non, car nous ne sommes pas là dans l'ordre du vouloir. Mais celui qui se croit déjà dans la lumière, comment pourrait-il l'accueillir, lui qui prétend en être suffisamment pourvu? C'est sans doute le trop-plein de sens qui résiste à la grâce offerte, surtout si l'on prétend l'acquérir ou le posséder par sa propre sagesse. Je vous conseille fortement de lire ce beau livre. Je vous remercie. Avant de faire la pause, merci. Non, parce que je vois James qui s'avance. Qu'est-ce que je te donne ça?
Est-ce que nous avons telle ou telle chose qui nous...